Le 85e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, en partenariat avec Prestataire Certification, du 23 au 25 septembre 2025 sur Radio Imo et Radio Territoria.
Et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo, on est ravis de vous retrouver en direct du congrès HLM 2025. Et cette année encore, les débats s'annoncent intenses autour d'un sujet qui nous concerne tous, comment produire davantage de logements sociaux dans un contexte de crise sans précédent. Hausse des coûts de construction, pression foncière, exigences réglementaires et environnementales toujours plus fortes. Vous le savez, la demande explose. Fin juin 2025, c'est près de 2,8 millions de personnes qui attendent un logement social. C'est 100 000 de plus qu'il y a 6 mois. Et il faut le dire, on va tout droit vers les 3 millions alors que la production peine à suivre. Alors comment construire accessible, durable et de qualité sans renoncer à l'ambition architecturale ni à l'équilibre économique des opérations? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir trois intervenants. Michel Platzer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auteur aux éditions du Moniteur, du guide pratique concevoir et construire des logements sociaux. Et vous êtes également responsable logement chez ATD Quart Monde.
Tout à fait.
ATD Quart Monde, brièvement, pour nos auditeurs.
ATD Quart Monde, association qui lutte pour la destruction de la pauvreté dans le monde, si l'on peut dire, et qui est notamment très présente en France et qui travaille beaucoup dans le logement et qui a été l'inspiratrice de la loi Dalo.
Et c'est important.
Droit au logement opposable.
D'en parler. Francis Stéphane, bonjour.
Bonjour.
Directeur général de Domo France, filiale du groupe Action Logement.
Absolument.
Et Karine Thomas, bonjour.
Bonjour.
Directrice générale de Prestataire Certification. Petit rappel, Prestataire Certification pour nos auditeurs.
Un des 4 organismes accrédités par le COFRAC pour certifier la performance énergétique et environnementale des bâtiments.
Tout simplement. Alors Michel, on va rentrer dans le vif du sujet avec vous, puisque vous, je l'ai dit, vous avez publié un guide pratique sur la construction de logements sociaux. Alors justement, j'ai évoqué le contexte actuel. Après, on va évidemment en parler plus en détail. Il y a la hausse des coûts de construction, hein, plus 15% en moyenne selon les derniers chiffres publiés par la DHUP. Et les délais qui s'allongent, quel constat vous dressez justement sur l'état du secteur en cette rentrée 2025?
Merci beaucoup. Bon, alors pour commencer, un petit rappel, et sans vouloir être désagréable avec notre ministre que je salue.
Donc, ex-ministre, on ne sait pas trop.
Futur ex, peut-être. Enfin bref, qui nous dit que 98 682 logements ont été financés en 2024. Or, Madame la Ministre, les logements financés, ça ne signifie pas grand-chose. Et comme ce sont les logements qui peuvent être construits, comme dans le sketch de Pierre Dac et Francis Blanche, pouvez-vous dire le numéro de carte d'identité de Madame? Oui, bravo, il peut le faire. Donc ça veut dire qu'on aura peut-être un jour ces 98 000 et quelques logements qui sortent. Si on regarde maintenant plus précisément la réalité, c'est-à-dire l'augmentation du parc de HLM tous les ans, on voit que cette augmentation, compte tenu des démolitions, compte tenu des ventes, etc., elle est autour de 50 000 logements par an.
Produits par an, chaque année.
Hein. Le vrai chiffre, c'est que le parc augmente de 50 000 logements chaque année.
Net.
Voilà. Net, hein. Net de net, voilà. En plus supplémentaire.
Voilà. Et c'est ça qu'il faut comparer aux bientôt 3 millions, comme vous le disiez, de demandeurs, ce qui fait que le stock de demandeurs est égal à peu près 60 années de flux de construction.
On
voit bien qu'on a ici un vrai sujet. Maintenant, si on regarde les prix, alors là encore, pour construire un logement social, il fallait à peu près 80 000 euros en 2000, il fallait à peu près 160 000 euros en 2003, ce qui est logique, tout augmente. Mais le poids des subventions a baissé, puisqu'il est passé de 14% à 7%. Il a été divisé par 2. Ce qui veut dire que les organismes HLM sont forcés de plus emprunter pour réussir à équilibrer leurs opérations. Emprunter plus, comme vous, comme moi, comme n'importe qui, ça veut dire des remboursements plus élevés. Qui dit remboursement plus élevé, dit loyer,
du prix,
dit loyer plus élevé. Mmh. Et le sujet, c'est pas du tout que les organismes HLM doivent augmenter les loyers. C'est normal, c'est mécanique, c'est l'équilibre économique des opérations. On ne peut pas pousser les organismes en déficit. Mais le vrai sujet, c'est que les aides de l'État, notamment l'APL, ont augmenté beaucoup moins vite que les loyers. Un grand économiste de l'Union des HLM, Michel Amzalag, a fait un très bon article dans lequel il explique que, alors que les plafonds APL ont cru de 23%, les loyers maxi plus les PLAI ont cru de 42%. Ce qui veut dire que pour les locataires, le reste à payer après APL est de plus en plus élevé. Et ce qui veut dire aussi que, comme dans les commissions d'attribution, on est jugé évidemment sur le reste à vivre et le taux d'effort, un grand nombre de familles présentent soit des restes à vivre insuffisants, soit des taux d'effort trop élevés, et du coup n'entrent pas dans le logement. Et je termine par le communiqué de presse que vient de publier ATD Quart Monde au sujet de la métropole du Grand Paris. En 2024, sur la métropole du Grand Paris, le quart des demandeurs les plus pauvres n'a bénéficié que de 13 et quelques pourcents des attributions. Donc on est bien dans un système qui aujourd'hui, sur le plan économique, va discriminer les ménages les plus démunis. Et c'est un vrai problème au-delà effectivement des difficultés de montage des opérations, de la longueur, etc. Et la difficulté à faire également de la bonne architecture. Mais j'insiste beaucoup, ce ne sont pas les bailleurs qui sont en cause, ils font très bien leur métier.
Bien
c'est
sûr.
Le système, l'écosystème oui. du logement social qui aujourd'hui fonctionne mal, fonctionne sur une jambe, si je peux dire.
Et alors, juste, je complète, il y a l'USH, hein, l'Union sociale pour l'habitat, qui a publié des chiffres, et ça corrobore ce que vous dites, justement, et les profils les plus défavorisés ont moins de chances d'obtenir un logement social, et ceux qui ont plus de 2000 euros de revenus, un ménage qui a plus de 2000 euros. Donc, c'est vraiment une fourchette au milieu qui a le plus de chances d'obtenir un logement social. Juste, est-ce qu'on peut dire qu'on est arrivé à un point de rupture qu'on n'a jamais vu ? Est-ce
si
que c'est
voulez,
le cas ?
Si on raisonne en termes de finances publiques, on voit que pour 500 euros ou 300 euros d'APL qui manquent, une famille va rester dans un hébergement, et en hébergement, la place, c'est 10 000 euros par an. Donc cette famille de 5 personnes, elle va coûter 50 000 euros par an à l'État en hébergement, alors qu'on cherche à économiser sur l'APL quelques milliers d'euros pour la loger. Donc on est vraiment dans un système qui ne fonctionne pas bien aujourd'hui.
Juste un petit mot aussi sur les délais de construction qui s'allongent,
oui.
Proportionnellement, on peut le dire, à la hausse des coûts.
Je laisserai peut-être Francis en parler, mais c'est très différent selon les zones. C'est-à-dire que dans les métropoles très tendues, notamment la métropole du Grand Paris, ça peut être très long, mais globalement, moi, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait une augmentation
des délais en particulier.
Si, massivement.
Ah oui, c'est ça, hein, c'est ce que j'avais...
Si, massivement, notamment... Ouais. Depuis la loi Elan et la loi, je cherche le terme, résilient.
Climat et résilience, 2021.
Donc Elan, c'est 2018.
Oui, mais la loi climat et résilience, on a pris 6 à 8 mois supplémentaires d'instruction. Après,
donc ça fait 4 ans que c'est hyper.
Si vous voulez, un programme classique. Il y a 5 ans, on mettait à peu près 3 ans pour le sortir. Hein, entre le moment, quand tout roulait bien, aujourd'hui il faut 5 ans. Et donc les élus comme les habitants ne comprennent pas, à juste titre, ces délais, alors que la pression monte très fortement, on y reviendra.
Mmh. Et alors, pour rebondir là sur ce que disait Michel, c'est vrai que le coût de la construction, le coût des matériaux, tout ça augmente dans l'équation économique. Est-ce qu'il y a eu, on n'a pas parlé de la guerre en Ukraine, est-ce que ça a joué ? On sait qu'il y a vraiment eu une crise des matériaux, ça a joué aussi, ça rentre dans l'équation économique.
Alors, les prix de la construction en 5 ans ont augmenté de 35%. Il faut avoir ça en tête. Et on a eu un effet de cliquet au moment, suite à Covid, début de crise en Ukraine, on a eu un vrai effet de cliquet sur les matériaux. Les choses sont redescendues aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le marché privé est arrêté et que les entreprises ont besoin de reconstituer leur carnet de commandes. Donc on a des appels d'offres plus attractifs. Mais l'équation loyer, coût de production et capacité à financer les programmes aujourd'hui nous met en difficulté. On va sûrement regarder un peu ça de plus près tout à l'heure. Mais cette difficulté aujourd'hui, on a comme seule réponse quasiment, c'est les fonds propres. Et derrière se cache l'équation, comment dégage-t-on des fonds propres nouveaux pour compenser les subventions qui ne sont plus là ?
Et alors, au-delà des fonds propres, il y a une question qui se pose en tant que bailleur, je vous la pose. Quand les budgets se tendent, qu'est-ce qu'on sacrifie en priorité ? Est-ce que c'est la qualité architecturale ? Est-ce que c'est la taille des logements ? Même si je sais que c'est difficile pour vous de répondre.
Non.
Est-ce que c'est la taille des logements ? Est-ce que c'est certains équipements collectifs ? Et comment arbitrer sans dégrader l'attractivité et puis essayer de ne pas dégrader la qualité justement d'habiter ?
Vous posez vraiment une question fondamentale de notre situation actuelle. Moi, je voudrais revenir quand même sur un point et je vais répondre. Hein. Mais on vit la plus grave crise du secteur depuis 1992. Un simple chiffre, parce que vous nous avez quand même asséné pas mal de chiffres, mais un simple chiffre, le taux de rotation, c'est-à-dire la sortie du parc. Aujourd'hui, même en zones dites détendues, qui sont des fausses zones détendues, on est à moins de 5%.
De ça, taux de rotation, ça veut dire qu'il n'y a que 5% du parc qui quittent leur logement, voilà, que d'autres arrivent.
Alors, il y a 5 ans, on était sur un rythme de croisière en zone tendue autour de 7, en zone détendue 10, 11. Aujourd'hui, même en zone détendue, je suis à 7, en zone tendue à moins de 5. Même les quartiers les plus, allez, les moins agréables, pour employer un mot qu'on peut partager ensemble, moins attractifs, personne ne part. Et quand le logement est libre, il y a la queue. Ça montre que le marché est hyper contracté, grippé, et on a un problème de fluidité. Aujourd'hui, tous les jours, j'ai une entreprise qui m'appelle en me disant « Monsieur Stéphane, je ne peux pas embaucher parce que je ne peux pas loger. » Parce que vous évoquez les pauvres, c'est bien.
Il y a aussi les salariés.
Non, mais notre rôle, ce n'est pas simplement de loger les pauvres. Il ne faut pas l'oublier. Moi, je le rappelle, je suis filiale d'Action Logement. 60% des entrants ont un CDI, dont la moitié sont sous le taux de pauvreté avec un CDI, parce que temps partiel est souvent, mesdames, des femmes.
C'est important de le rappeler.
Ou des familles monoparentales. Et si elles n'ont pas une solution de logement adapté à prix abordable, eh bien, elles se retrouvent soit à la rue, soit exclues de la filière logement. Et là, on a un véritable enjeu. Alors, pour répondre à votre question, les arbitrages. Oui, nous avons des arbitrages. Bon, le premier arbitrage, vous allez le comprendre. Nous avons des capacités de fonds propres et d'engagement limitées. Oui. En tout cas, un organisme comme le mien, on produit 2000 logements par an. Pour donner un ordre d'idée, mais je pourrais en produire 2000, 3000, 4000. J'ai la demande pour et le marché pour sur toute la Nouvelle-Aquitaine.
Donc c'est les fonds qui manquent.
De Hendaye à l'île de Ré, c'est les fonds qui manquent. Dans le premier arbitrage, ce n'est pas l'architecture, ce n'est pas la qualité de logement, c'est produire moins de logements.
D'accord.
Premier arbitrage, je produis moins.
D'accord.
Cette année, j'ai dit aux équipes.
Réduit le nombre de logements qui sortent.
400 logements de moins qu'on agrée. Vous avez raison. Et je dis souvent à l'État, à nos partenaires, avec l'accent du Sud-Ouest, je leur dis souvent, j'ai jamais logé des gens dans des agréments, ça se saurait. Dans des logements, c'est mieux. Et pour sortir des logements, il faut 5 ans, il faut 6 ans. Et chose nouvelle, c'est que quand même, l'Union HLM l'a mis en évidence, mais aussi tous les acteurs, 10% des agréments seront jamais honorés.
Ne seront jamais construits.
Ne seront jamais honorés. C'était jamais arrivé.
Ça veut dire que vous promettez 1000 logements, 10%, il y en a 900 qui sortent.
Alors, aujourd'hui, quand le gouvernement ou les services de l'État annoncent 90 000 logements, 10% ne verront jamais le jour.
Parce que, finalement, ce sera non. C'est ça, oui.
Ben parce que, pourquoi ? Parce qu'on dépose des financements pas assez matures. On n'a même pas le permis de construire. Donc, pas assez matures et les conditions... Et de montage, les conditions techniques, là on rejoint notre ami, les conditions techniques font que bah, on ne va pas aboutir parce que problème sur le foncier, et puis on parlera du normatif qui me fait
Alors justement, si vous
hérissez le poil.
Après.
C'est le
juste
suivant.
Pour
c'est
terminer ce que vous disiez, donc vous me confirmez que l'ambition architecturale et la qualité d'usage ne sont pas les premières victimes des arbitrages financiers que vous faites.
Partiellement. C'est pas le premier arbitrage,
mais
c'est le nombre.
Mais
ça joue quand même. Exemple, la surface des logements. Exemple, les rangements. Exemple, le stationnement. Voilà, il y a un certain nombre...
Ça va être moins recherché, en fait. Il y a moins de...
Le problème, exemple, je vais vous citer encore des exemples. Sur des réhabilitations lourdes, aujourd'hui très lourdes, 100 000 euros au logement, eh bien, je dis, je ne vais pas mettre d'ascenseur sur des trois niveaux, alors que ça serait utile pour une
personne âgée,
pour une pour une population vieillissante. Je vais pas
gros
mettre...
chantier d'ailleurs des années à venir, ça.
Très très fort. Problématique, je ne vais pas mettre de balcon, alors pour la qualité de vie, c'est important.
Et que
donc,
tout le monde
demande. Mais tout le monde demande, mais si,
mais
ceux qui demandent, ils ne payent pas. Donc c'est là toujours le sujet. C'est très facile de demander,
mais
on ne paye pas. On me demande des réhabilitations à tour de bras, mais quand je dis aux assos de locataires, on va augmenter le loyer, on me dit surtout pas.
Pas question.
Donc, et quand je dis, il faut augmenter les loyers pour dégager le fonds propre pour réhabiliter, on me dit surtout pas. Donc on est toujours... On est prêt à faire beaucoup, surtout si c'est l'autre qui paye. À un moment donné, l'autre, c'est nous.
Non, mais merci pour ce discours engagé et sans langue de bois.
Engagé, sans langue de bois et direct.
Merci beaucoup, parce que ça fait plaisir. Et franchement, en tant que journaliste, j'en reçois beaucoup sur mes plateaux. Merci, vraiment. Alors, comment concilier financement et performance ? Karine, c'est vrai que la RE 2020, la réglementation environnementale 2020, les labels, le durcissement des normes environnementales européennes, comment justement ces exigences environnementales se traduisent concrètement dans un projet de logement social en 2025 ? Est-ce que comment ça impacte le coût, le délai, etc. Enfin, tout. Comment ça se concrétise ?
Le coût, le délai,
vient d'en parler. Je dirais que nous, déjà, pour rebondir sur ce que disait Stéphane, eh bien, dans la certification, on a l'impact hein, de la crise actuelle. C'est-à-dire que quand ça va mal, on a aussi moins de projets à certifier, parce que la certification, c'est un coût. Ça peut être vécu comme une contrainte supplémentaire. D'ailleurs, c'est souvent vécu comme une contrainte supplémentaire. Alors qu'aujourd'hui, la certification, ça doit être plutôt vu comme un levier, en fait. Hein. Parce que oui, on parle de réglementation, l'ARE 2020, les futurs seuils hein, jusque 2031 qui vont faire que augmenter la taxinomie. Il y a tout un tas de règles aujourd'hui qui sont quand même portées par des dispositifs d'aide incitative. Aujourd'hui, ce qui permet quand même de booster le logement social quand on produit, c'est les différentes aides qui permettent d'équilibrer, même si c'est de moins en moins le cas. Mais du coup, ça se réduit à peau de chagrin. Et on voit bien, hein, nous, sur les différentes années, on a des bailleurs qui avaient 3-4 opérations par an, qu'on n'ont plus que 2, et ainsi de suite. Donc, il faut multiplier les certifications, mais on voit bien que ça se tend. Donc la certification, son rôle, c'est de traduire des objectifs qui parfois sont complexes, abstraits, dans un cadre clair, mesurable, vérifiable. C'est ça la certification, hein, puisque si je prends l'exemple de prestataire, nous avons des labels BEE, bâtiment, énergie, environnement, dans lequel vous retrouvez des thématiques, les thématiques principales hein, de confort, le confort d'été, la résilience du bâtiment,
dont on parle beaucoup.
Voilà, le carbone, évidemment, la performance énergétique et carbone qui est au cœur de tout, c'est le principal. Hein, et après, il y a tout le reste. Et finalement, on va traduire ces objectifs, ces réglementations, ces objectifs de performance en exigences claires et mesurables. La certification, c'est un cadre. C'est un cadre sécurisant qu'apporte aussi l'intervention d'un tiers neutre et indépendant, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on fait partie des organismes accrédités par le COFRAC. Ça veut dire qu'on a la légitimité pour valider l'atteinte des objectifs qui sont fixés. Et puis aussi, ça donne une feuille de route, puisqu'on intervient au plus tôt dans les projets, dès la phase esquisse, projet, puisque le coût aussi, c'est souvent lié à l'anticipation des réglementations. Et quand on dit on va produire bas carbone, si on décide de faire, par exemple, un label BBCA, qu'on certifie en mention de nos référentiels, qu'on décide de le faire en exécution et qu'on a tout fait béton, ça va être difficile. Donc il y a quand même aussi ça, il y a l'anticipation, et on voit bien que les clients qui sont rompus à l'exercice de la certification et qu'on accompagne depuis des années ont moins de difficultés, et le coût ils ont réussi à le gérer parce qu'ils se sont réinventés, ils ont innové
et puis ils sont accompagnés.
Et puis ils sont accompagnés. Ouais. Parce que notre rôle, hein, ça va être de suivre en fait le projet, de la conception jusqu'à la livraison du bâtiment, et de venir rappeler les échéances avec une évaluation en phase conception qui va déjà permettre dès le départ de mettre en exergue les points de non-conformité, et puis donner un cahier des charges et une feuille de route jusqu'à la fin.
Vous êtes en fait le tiers de confiance en amont de l'opération
et
jusqu'au bout en fait, au long de la vie du...
Exactement, et c'est aussi la raison pour laquelle de plus en plus de financeurs, qui peuvent être des collectivités locales, des banques, hein, les prêts verts, etc., associent les financements à une certification, parce que c'est l'assurance pour eux de l'intervention d'un tiers de confiance. Voilà, et de s'assurer de ne pas distribuer l'argent public n'importe comment.
Et on peut dire que depuis 40 ans, tous les progrès dans le logement, et pas seulement dans le logement, ont été portés par le mouvement de certification.
Hein,
c'est évident. Je voudrais quand même dire une petite chose, en complément de ce que vous dites, c'est que la taille des opérations a diminué.
C'est vrai.
Les exigences et toutes les certifications ont augmenté, ce qui, Francis, pose la question des compétences à avoir dans les organismes et de la taille des organismes. C'est-à-dire qu'un organisme HLM qui va faire 2 opérations par an, comment va-t-il faire avec la certification BBC? Ça implique quand même une forme de regroupement et de concentration des ressources intellectuelles, non?
Alors Francis, que répondez-vous à cela?
Écoutez, moi je suis à ma 7e absorption, donc je réponds que oui, évidemment. Mais pour autant, je vais vous dire une chose très simple. On peut mourir d'obésité comme de rachitisme. Donc grossir pour grossir n'a pas de sens. Il faut de l'expertise, il faut du savoir-faire, mais il y a un minimum de taille nécessaire. Après, moi, je fais partie de ceux qui sont très engagés sur ces questions environnementales, développement durable, puisque je préside la commission RSE à la Fédération depuis 10 ans et que je suis le seul bailleur labellisé en France Bicorp renouvelé. Ouais. Mais aujourd'hui, je crie et je prône et j'appelle de mes voeux une pause normative. Quand on fait aujourd'hui de l'ARE 2020 niveau 2025, c'est déjà exceptionnel.
C'est vrai.
Mais quand, côté État, on nous dit on sort du marché, 160 000 logements à étiquette G. Est-ce qu'on préfère laisser les gens à la rue ou les loger
ouais.
en G?
Ouais.
Il y a un problème de posture.
Il y a un problème de timing, de posture.
Et ouais. De posture, ouais. De positionnement. Il y a une autre façon, peut-être, de remettre les G dans le circuit sans les interdire à la location. Ouais. C'est trop facile. Ceux qui demandent de sortir les G du marché, eux, ils sont déjà logés. Mais les gens qui sont à la rue, qui attendent un logement, qu'est-ce qu'on leur dit avec une crise de logement insoutenable aujourd'hui? Quand on voit dans toutes nos métropoles européennes, pas simplement françaises, mais européennes, et la France en est la caricature, on a une favélisation de nos tours d'autoroute, de nos tours de ville avec des cabanes, etc. Et ça interpelle personne. Mais on a un problème majeur, gravissime. Et ça fait des mois et des mois que nous et d'autres acteurs, et vous y participez très fortement, à mettre ce sujet sur la table. Mais comment se fait-il qu'on ne le saisisse pas avec autant avec force et vigueur?
Sans parler des personnes qui travaillent, qui dorment dans leur voiture. Hein. Vous évoquiez tout à l'heure, je pense aux fonctionnaires.
Et on peut dire des 100 000 familles reconnues prioritaires d'Allo et qui ne sont pas relogées aujourd'hui.
Oui, mais je n'ai pas les chiffres, mais j'ai les chiffres sur Bordeaux. Cette année, 15 000 étudiants ont renoncé à leurs études faute de pouvoir se loger. Comment c'est possible? Quand on dit à une génération, à 90%, il faut aller au bac et après, tu rentres chez toi parce qu'on ne peut pas te loger.
Ouais.
Non, mais ce n'est pas possible. On a un problème sociétal devant nous.
Et c'est l'égalité des chances qui est atteinte.
Absolument.
Alors, on va revenir à la certification parce que c'est vrai que c'est intéressant et ça a quand même impacté les logements qui sont de qualité. Ceux qui sortent sont de qualité. Du côté des usagers, comment ces certifications sont perçues? Et tout à l'heure, vous avez évoqué le confort d'été. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, je pense à ça. Hein. Mais du coup, il y a une prise de conscience maintenant pour les usagers finaux quant à la certification. On s'y intéresse de plus en plus quand on voit que le climat se dérègle. On voit qu'on est tous directement concernés. Comment voilà, vous voyez cette perception côté utilisateur, côté usager?
Je dirais que ce n'est pas juste le changement climatique. Hein. Si on repart quelques années en arrière pendant le Covid, quand on se retrouve à 5 ou 6 entre 4 murs dans un 30 mètres carrés qui n'a pas de balcon, pas de verdure et qu'on est enfermé, là la réalité elle revient de façon criante. Alors le changement climatique, évidemment le confort d'été il n'est pas encore traité suffisamment, hein, je dirais même l'inconfort d'été, mais on le voit, pour moi c'est l'enjeu de demain puisque là il s'agit déjà d'avoir de la performance énergétique et carbone, hein, de payer moins cher de factures d'électricité que de loyer, parce qu'aujourd'hui, il se trouve qu'il y a quand même des familles qui ont des factures énergétiques plus onéreuses que les loyers. Mais le confort d'été, évidemment, c'est des sujets qui sont des enjeux de demain et déjà portés par plusieurs...
qui ne partent pas en vacances.
C'est ça.
Qui ne partent pas en vacances et qui restent dans leur logement tout l'été.
Exactement. Par plusieurs collectivités. Alors, comment c'est associé aujourd'hui à la certification? Nous, on le voit. Je parlais tout à l'heure des différents dispositifs d'aide incitative. On a par exemple toutes les aides qui sont portées par les délégataires à la pierre. Bon, on voit bien que les délégataires, il y en a entre 170 et 190, hein, ça fait un bon nombre. Donc ils se voient déléguer les pouvoirs de l'État pour mettre en place des dispositifs pour bâtir et rénover plus performants. Et on voit des sujets de confort d'été arriver dans les tableaux de marge locale pour pousser les bailleurs. Et je vous rejoins tout à fait. Aujourd'hui, le parc des logements sociaux est parmi les parcs les plus performants. Donc il y a énormément de choses qui ont été faites au cours des décennies.
Et est-ce que justement les usagers font le lien entre la qualité environnementale et puis les économies sur leurs factures?
Quand c'est visible, oui. Mais parfois, il y a plein de choses qui sont abstraites. N'allez pas parler de taxinomie à un usager final. Par contre, si effectivement, il rentre dans un logement qui est confortable, avec des logements traversants, de la luminosité, de la verdure, des jardins partagés, Bon, non mais...
Bien sûr, oui.
Non mais
donc
voilà. Ça allait, oui.
Et effectivement, la note d'électricité, d'énergie à la fin du mois, il la regarde évidemment.
Donc on a un véritable enjeu de quittance.
Ouais.
Un loyer plus charge, et aujourd'hui maîtriser les charges c'est important, sachant que le premier outil du pouvoir d'achat dans le débat public aujourd'hui il n'est pas assez porté, c'est le logement. Quand le logement pèse entre 30 et 40% de l'effort d'un ménage, jouer sur le coût du logement, c'est jouer aussi sur l'amélioration du pouvoir d'achat des Français. Et là il y a un vrai enjeu de politique publique.
Sachant que là aussi, l'APL ne couvre très mal les charges. Je pense que vous serez d'accord avec moi.
Oui.
L'APL charge,
oui, mais
souvent un, qui est plafonné, souvent un peu...
Je crois que l'enjeu des bailleurs aujourd'hui, c'est pas l'APL, c'est de baisser massivement les charges par des logements adaptés, des logements qui consomment beaucoup moins. Mais par contre, le confort d'été va être un gros débat devant nous, parce qu'aujourd'hui, on a créé des cocottes minutes extrêmement étanches, et qui, l'été, monte en chauffe énormément. Ah oui. L'hiver, aujourd'hui, on a des réponses très qualitatives, mais l'été, ça pose un autre problème.
Ouais, ça pose compliqué.
Un véritable problème.
Alors justement, vous évoquiez l'aspect économique. Est-ce qu'on peut décrypter ensemble l'équation économique d'un projet de logement social en 2025 ?
Oh, l'équation est assez, à la fois simple et compliquée. C'est une montée très forte de la du besoin de fonds propres. Et le seul paramètre aujourd'hui que nous donnent les pouvoirs publics, c'est continuer à s'endetter. Le seul schéma, c'est le chemin de l'endettement pour produire du logement. Donc comment on arrive à contrôler l'endettement ? C'est par plus de fonds propres. Plus de fonds propres, ça passe par quoi ? Ça passe aujourd'hui dans notre modèle actuel. Certaines diront les subventions et tout. Mais il ne faut pas parler de subventions dès lors qu'on connaît l'endettement de ce pays. Il faut qu'on ait des modèles où on puisse arbitrer comme une foncière une partie du parc pour dégager des fonds, pour produire du logement très social, du logement intermédiaire, de l'accession à la propriété abordable. Moi, par exemple, cette année, je fais 300 BRS. Et le BRS se vend facilement, répond au marché.
Permet donc, bail réel solidaire pour nos auditeurs.
Ah, pardon, excusez-moi. permet, avec une dissociation, évidemment,
entre le bâti et le foncier.
Mais ça permet d'accéder, pour des jeunes familles dans des quartiers où on n'aurait jamais pu accéder, mais ça permet aussi aux bailleurs de dégager des marges pour financer du logement très social. Donc, tout ça est un mécanisme d'un écosystème à remettre en marche.
La baisse du livret A qui a été actée en juillet, donc qui est passée à 1,7%, justement, ça rentre en compte, hein, ça vous permet...
C'est un vrai effet de levier. Pour moi, 0,5 points dans une boîte comme la mienne, c'est 7 millions d'euros.
D'accord.
0,5 points. Donc ça a joué énormément. Donc on a pris un impact considérable quand on est passé de 0,5 à 3 en 18 mois. La charge de la dette pour moi a augmenté de 45 millions. Mais j'ai surtout une RLS de 13 millions. Donc quand on cumule tout ça, on a quand même mis des boulets aux pieds des bailleurs très durement. Alors le 0,5%, moi je suis un ancien banquier, le 0,5% n'était pas une bonne note non plus. C'était un niveau de coût de la ressource qui était anormalement bas. Et on n'y reviendra jamais. Donc comment on... Mais on s'était habitué. Vous savez, la drogue dure, on s'y habitue facilement. Et donc là, comment on sort de ce système et comment on arrive à le réguler dans la durée ? Il faut diversifier nos métiers, ouvrir et aller chercher des activités rentables pour financer le social.
Et alors, est-ce qu'on peut dire que sobriété énergétique et soutenabilité financière sont possibles en pratique ? Ou est-ce que c'est un slogan, j'ai envie de dire, qui se heurte au bilan des projets ?
C'est pas un slogan, c'est une obligation. Et pas une obligation réglementaire, une obligation sociétale. Ouais. Et quand vous évoquiez tout à l'heure les certifications, les enjeux très en amont d'étudier les projets, c'est là où on gagne la sobriété. Et gagner la sobriété très en amont dans les études, c'est pas prendre des surcoûts,
ouais,
c'est optimiser. Ça. Et puis on verra, il faut aller chercher aussi des nouveaux modes de construire, des nouvelles approches.
Exactement.
Avec un travail très amont. Je crois que sobriété et maîtrise économique peuvent aller de pair, mais aujourd'hui on a besoin quand même d'une pause normative, parce que l'enjeu c'est de massifier.
Exactement.
C'est pas de faire des projets tests, c'est massifier, 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 parce que nos concitoyens attendent du logement massivement.
Mais alors justement, allez-y, je vous en prie, Michel.
Sans oublier que l'ADEME considère qu'on a besoin de construire à peu près en tout entre 80 et 100 000 logements par an et pas plus.
Oui, il y a un gros sujet sur le...
Il y a un énorme débat au sujet.
La dernière étude, c'est toujours entre 500 000 et 500 000.
Et presque 80 000, voire zéro.
Moi j'ai une réponse là-dessus. Mais c'est zéro si on regarde. Il y a 3 millions, à peu près 3 500 000 logements libres dans ce pays. Mais ils ne sont pas au bon endroit. Ça, c'est
absolument.
Un. Et deux, moi, j'interviens beaucoup dans des opérations Action Cœur de Ville.
Oui, le programme 2 qui est notable. Hein.
Qui est notable, etc. Mais le coût, il est 30% plus cher que du neuf.
Absolument.
Donc, je ne sais pas massifier sur l'Action Cœur de Ville. Donc, l'ADEME est sympathique, mais on loge pas des gens dans des statistiques. Vous savez, à la DHUP, on m'a dit, monsieur Stéphane, vous regardez pas assez les courbes. Ah bon? Et on me dit, en 2050, on a la croissance démographique qui s'effondre, on n'a plus besoin de logement. Eh bien, j'ai dit, je n'y avais pas pensé, chère madame.
Il suffit d'attendre.
Oui, je vais dire aux gens qui attendent un logement, attendez 2050, vous serez logés, évidemment.
Ben oui, c'est vrai que vu sous cet angle...
C'est vrai que les débats sont effectivement pas forcément bien partagés, sociétalement parlant. C'est-à-dire qu'entre nous, on est tout à fait d'accord, mais il y a une espèce de...
Mais parce que vous êtes sur le terrain, voilà. En fait. Il y a des gens du terrain et puis il y a ceux qui sont déconnectés.
Il y a trop de logements, les HLM coûtent trop cher, etc.
Les chiffres, on les partage avec eux, on a les mêmes chiffres. Mais il faut les ramener au haut.
Bah oui.
Au plus proche. Au plus proche.
Et au vrai sujet.
Alors, soyons positifs, quelles pistes concrètes justement pour sortir de l'impasse ? Est-ce que vous avez déjà des exemples inspirants, des exemples récents de projets justement qui ont réussi à concilier tout ce qu'on s'est dit ?
Il y en a plusieurs, il y en a de nombreux, notamment portés par des acteurs qui anticipent et certifient depuis longtemps, donc qui ont fait ce travail d'agir et de réfléchir à comment on conçoit, comment on fait ça dès le départ. Le dernier exemple, là, puisque c'est en cours de certification, d'ailleurs, c'est une filiale du groupe Action Logement, 3F Normandie.
Oui.
C'est la Villa Serena à La Chênaie, je crois, la ville dans 76. Et là, on a une opération qui combine, qui est exemplaire, en tout cas, s'ils atteignent les exigences et si si les promesses sont tenues, puisque pour le moment, je le répète, on est bien en cours de certification. Mais voilà une opération où on a la mention BE+, qui vise une performance globale du bâtiment, l'option TFPB, donc il y a aussi la mobilisation des aides, l'exonération de 5 ans supplémentaires sur la taxe foncière sur le bâti, qui est quand même massivement recherchée par les bailleurs, parce que ça permet d'équilibrer l'opération. Ils ont visé le bas carbone avec le label BBCA, ils ont également choisi le label bâtiment biosourcé. On est déjà sur des IC construction 2031, IC énergie 2028, donc voilà une opération exemplaire, et il y en a plusieurs, on en a plusieurs exemples comme ça, sur lesquels d'ailleurs on les met en valeur, mais ça c'est pas le plus grand nombre, c'est pas la masse.
C'est ça, et comment massifier
alors ce genre de choses ? Pour sortir de l'impasse, il faut faire de la performance un standard accessible, et pas seulement une ambition qui serait réservée aux pionniers, à l'élite, à ceux qui savent faire du performant. On revient du CIPCA il y a une semaine. Évidemment, on parle d'opérations absolument exemplaires, mais c'est toujours porté par les mêmes acteurs qui sont pionniers. La massification, selon moi, elle passe nécessairement par une approche progressive, pragmatique, adaptable et puis collaborative. Aujourd'hui, on ne peut pas considérer que tous les bailleurs, tous les maîtres d'ouvrage sont au même niveau de maturité, ont les mêmes moyens, ont les mêmes capacités en interne d'avoir des personnes qui travaillent sur l'innovation, qui sont en mesure d'accompagner aussi des projets de certification. Donc, j'aime bien cet adage qui dit que, en tout cas chez Prestataire, on aime bien prendre le maître d'ouvrage là où il est pour l'amener là où il peut aller. Et c'est la raison pour laquelle on a des référentiels entre guillemets à la carte, parce qu'on peut faire du très très performant, mais on va choisir dans les exigences qui va répondre le mieux au projet et aux moyens aussi du maître d'ouvrage.
Et ça n'implique pas que les bailleurs, hein, ça implique aussi les architectes.
Exactement.
Vous l'avez dit, c'est un travail d'équipe, en fait.
Les entreprises, c'est vraiment toute la filière qui doit se mobiliser. Il ne faut pas tout faire reposer sur le bailleur.
C'est d'ailleurs le rôle que vous avez, prestataire certification, de travailler en équipe avec tout le monde, d'accompagner d'un point de vue extérieur, peut-être de conseiller.
Alors, le rôle du certificateur est tout sauf le conseil, justement parce qu'on est un tiers neutre et indépendant. Cependant,
on ne donne pas de pistes.
On dit c'est conforme, c'est pas conforme. Par contre, le bureau d'études va donner des pistes au maître d'ouvrage. Il y a les acteurs autour du projet. Mais on donne la feuille de route. Ouais. Voilà. Et on dit quand il y a une sortie de route ou pas. Je reviens sur ce que disait Monsieur Stéphane tout à l'heure. Effectivement, l'enjeu, en tout cas c'est ce qu'on prône, c'est la massification. Il faut massifier. Et peut-être effectivement faire une pause normative, parce que le problème de la massification, ça ne se fera que si tous les acteurs autour de projet sont prêts. Et aujourd'hui, on le voit bien quand on reçoit des ACV. Ce que c'est que l'ACV, donc c'est toute l'analyse pendant le cycle de vie. Ça, c'est ce que nous donnent les bureaux d'études pour faire toute l'étude thermique et carbone. Aujourd'hui, il y a énormément d'erreurs dans les ACV. Oui. On constate parce que il y a une montée en compétences qui n'est pas encore
démocratisée, donc il faut
laisser le temps. Et je citais tout à l'heure un projet exemplaire. Ça montre l'exemple. Ça montre que c'est possible. Ça montre qu'en travaillant en amont, eh bien, on arrive à atteindre des niveaux de performance élevés. Mais il faut aussi que toutes ces notions, toutes ces grandes avancées soient partagées.
Rapidement, c'est vrai que vous avez évoqué le CIPCA. Est-ce qu'on peut parler de ces modèles alternatifs? Il y a le hors-site, par exemple, il y a l'industrialisation, la préfabrication, la modularité. Tout ça, c'est vrai que c'est des choses qui peuvent aider à massifier et qui peuvent aider peut-être à réduire, enfin, en tout cas à tenter de réduire les coûts.
Tout à fait, mais encore une fois, aujourd'hui, c'est porté par des acteurs qui sont déjà en avance et qui ont une équipe pour travailler sur ces sujets-là. Donc, on attend aussi qu'ils montrent le chemin. Et c'est toujours pareil, il y a toujours des pionniers. Et puis, une fois que les pratiques, les moyens sont trouvés, ça rentre dans la norme et ça peut être multiplié.
Un mot peut-être pour le futur gouvernement, la future prochaine ex-ministre, on ne sait plus trop, mais...
bonne chance.
Ouais. Eh bien, je dirais que le mot, c'est de continuer à soutenir le logement, parce que c'est une nécessité. Aujourd'hui, ce n'est pas négociable, en fait. Il ne faut pas que la performance devienne une variable ajustable. Et en même temps, s'il n'y a pas d'aide... On va avoir des choix qui vont être faits qui ne seront pas dans le sens de l'usager.
Eh bien, merci beaucoup à vous trois pour vos éclairages, vos retours d'expérience très concrets. On le voit, la production de logements sociaux est un carrefour entre contraintes économiques, exigences environnementales et attentes sociales. Il faut inventer de nouveaux modèles pour continuer à loger dignement les Français. Le congrès HLM, c'est justement le lieu de ces débats, où ces débats prennent corps, et on continue à suivre de près ce congrès sur Radio Immo, donc restez connectés. Dans quelques instants, une nouvelle interview, puis des tables rondes encore cet après-midi. On est ici pendant 3 jours, à tout de suite.
Le 85e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, en partenariat avec Prestataire Certification, du 23 au 25 septembre 2025 sur Radio Immo et Radio Territoria.